Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui, édition du vendredi 2 janvier 2015. En direct de Washington, Camille Grosdidier et Georges Léonard Sagnot. Bonjour Georges.
Bonjour Camille et bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, au Congo-Brazzaville, le parti du président Denis Sassou Nguesso se prononce sur le changement de la constitution.
C'était au cours d'une importante réunion tenue à Brazzaville.
Le comité central du Parti congolais du travail appelle au changement de la constitution du 20 janvier 2002.
On suivra le compte-rendu de notre correspondant Nguela Ngosu. La Côte d'Ivoire a lancé cette semaine la couverture maladie universelle, la CMU.
La société civile ivoirienne inquiète de l'accès aux services de santé des populations ivoiriennes par rapport à la non-atteinte des objectifs du millénaire, a elle-même initié un plaidoyer en faveur de la couverture santé universelle.
On entendra le docteur Christophe Kouamé de la société civile ivoirienne qui a travaillé sur le dossier. Et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, presse la Cour pénale internationale de rejeter la demande d'adhésion de l'autorité palestinienne. Ne manquez pas non plus la minute de l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. Un kamikaze s'est fait exploser jeudi pendant l'office devant une église de Gombe dans le nord-est du Nigeria. On signalait plusieurs blessés mais personne n'a été tué. L'individu a été intercepté par des gardes avant de pouvoir entrer dans l'église. Gombe a été le théâtre récemment de plusieurs attaques. Mercredi, un kamikaze a ciblé une caserne et le 22 décembre, au moins 20 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées lors d'un attentat à la bombe contre une station d'autobus dans la ville. Ces attentats sont fréquemment imputés au réseau islamiste Boko Haram.
En République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui qu'arrive à expiration le délai fixé aux forces démocratiques de libération du Rwanda pour désarmer s'ils veulent éviter une action militaire des casques bleus de la MONUSCO et des forces armées congolaises dans l'est du pays. Certains membres des FDLR se seraient déjà rendus, mais ce n'est pas assez pour la communauté internationale. Henri Francisque nous fait le point.
C'est en juillet dernier que les chefs d'État de la région avaient donné 6 mois au FDLR pour déposer les armes. Ces rebelles Hutus, accusés du génocide de 1994 au Rwanda, se sont également rendus coupables d'atrocités dans l'est du Congo. L'émissaire spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, Wes Feingold, a précisé mardi que Washington appuie le recours à la force contre eux. Dimanche, 150 de ces combattants se sont rendus aux autorités congolaises, mais on estime, selon M. Feingold, que 1400 autres courent toujours dans la province du Nord Kivu. Le Rwanda, qui considère les FDLR comme une des plus grandes menaces à sa sécurité, ne veut pas d'un autre délai pour les FDLR et se demande même si les FRDC et la MONUSCO sont vraiment prêtes à désarmer les rebelles. Mais M. Feingold dit avoir reçu des assurances fermes quant à l'engagement des pays concernés. On rappelle que c'est la même collaboration FRDC-MONUSCO qui avait permis en 2013 de vaincre les rebelles du M23 dans l'est du Congo.
En Gambie, des militaires fidèles à Yahya Jammeh font du porte-à-porte dans la capitale, Banjul, à la recherche des adversaires du président, responsable de l'attaque armée contre son palais présidentiel cette semaine. Le président était hors du pays au moment de l'incident. Plusieurs dizaines de civils et militaires ont été arrêtés après le coup d'État manqué contre le président qui accuse un mystérieux groupe terroriste soutenu par des puissances étrangères. Le point avec Issia Kaba.
Une source proche des services de renseignement gambiens a indiqué à l'AFP que ces civils et militaires ont été soumis à des interrogatoires après l'attaque de mardi contre le palais présidentiel à Banjul. L'identité de ces personnes ainsi que la date de leur arrestation n'est pas connue. Des documents contenant notamment un plan de l'attaque ont également été découverts par les enquêteurs qui ont aussi mis la main au port de Banjul sur un conteneur avec une grande quantité d'armes automatiques très sophistiquées et d'explosifs. Cet arsenal était caché dans des ballots de friperie, a encore dit la même source. Pour sa part, le président Jammeh a déclaré à la télévision nationale que l'attaque du palais présidentiel a été menée par un groupe de terroristes soutenus par des puissances qu'il n'a pas identifiées et par des dissidents basés aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. la crainte de représailles commence à se manifester en Gambie. Quatre officiers soupçonnés d'avoir participé à la tentative sont arrivés mercredi à Bissau, selon une source militaire sur place.
Au Niger, c'est ce vendredi que l'ex-président du Parlement, Hama Hamadou, doit être jugé par contumace. Il est accusé d'implication dans un trafic international de bébés Bagassi-Coura.
Cet opposant au président Mahamadou Issoufou est en fuite en France et sera jugé par contumace. Il est poursuivi par la justice nigérienne avec une vingtaine d'autres personnes, dont son épouse, qui ont obtenu la liberté provisoire après 5 ou 6 mois de détention. Les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfants. Ce délit consiste à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde est passible de 2 à 8 ans de prison. Le réseau sur lequel le tribunal correctionnel de Niamey doit se pencher concerne plutôt les femmes ou leurs époux qui n'arrivent pas à avoir des enfants et qui ont recours aux trafiquants, a expliqué à l'AFP une source judiciaire. Selon la même source, une trentaine de bébés, dont des jumeaux, sont concernés par ce trafic entre le Nigeria, où ils ont été conçus par des mères anonymes, le Bénin, par où ils transitent, et le Niger, où ils ont été amenés, a précisé cette source.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Camille Grodidier avec vous. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pressé jeudi la Cour pénale internationale de rejeter la demande d'adhésion de l'autorité palestinienne. Idrissa Sedoudia.
Selon un communiqué publié par ses services et cité par l'AFP, M. Netanyahou a dit qu'il s'agit d'une demande hypocrite faite par une entité qui n'est pas un État et qui est liée à une organisation terroriste, le Hamas, auteur de crimes de guerre. Fin de citation. M. Netanyahou a réuni hier certains de ses collaborateurs pour discuter de la réponse israélienne à cette demande d'adhésion signée la veille par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ce dernier, menacé de le faire depuis des années à cause des lenteurs dans la réalisation de l'objectif visant à créer un État palestinien indépendant coexistant avec Israël. La CPI qui siège à La Haye a pour mission de poursuivre les auteurs de génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Une adhésion à cette cour, rendue possible par l'obtention fin 2012 du statut d'État observateur à l'ONU, est censée permettre aux Palestiniens d'engager des actions légales contre des dirigeants israéliens pour leur conduite des différentes guerres comme celle de juillet-août 2014 à Gaza ou encore pour les agissements en tant qu'occupants.
Les autorités grecques et italiennes offrent des bilans contradictoires sur le nombre des personnes portées disparues à la suite de l'incident du ferry normand atlantique dimanche dernier dans l'Adriatique. Le navire qui se rendait de Grèce en Italie a pris feu. Côté italien, on évoque jusqu'à 98 morts, alors que les autorités grecques parlent de 18 décès. Entre-temps, un remorqueur continuait jeudi de remorquer le ferry des côtes albanaises jusqu'au port italien de Brindisi, où les autorités vont le passer au peigne fin à la recherche de victimes. Plus de 470 passagers ont été secourus. Le capitaine Argilios Giancomasi a été le dernier à quitter le navire en flammes. « Nous avons fait de notre mieux avec l'aide de Dieu. Nous avons fait de notre mieux », a-t-il déclaré.
Selon le gouvernement irakien, plus de 15 000 civils et membres des forces de sécurité sont morts en 2014, soit plus du double du bilan établi pour 2013. Cela en fait l'année la plus meurtrière depuis 2007. Les chiffres compilés par les ministères de la Santé, de l'Intérieur et de la Défense parlent de 15 538 morts contre presque 18 000 en 2007, l'année où la rivalité entre sunnites et chiites avait été la plus sanglante. La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Camille.
L'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, a décidé de financer des prêts à l'habitat dans les pays membres à hauteur de 15,5 milliards de francs CFA.
Ces ressources ont été mobilisées lors d'une émission obligataire d'une durée de 10 ans. Cette émission porte sur un taux d'intérêt de 0,6% l'année, net d'impôts dans tous les pays de l'UEMOA. Cette opération de refinancement porte à 67,4 milliards de francs CFA, le montant total de ressources mobilisées par l'UEMOA sur le marché financier régional en 30 ans d'activité opérationnelle pour le refinancement de prêts à l'habitat consentis par 26 banques actionnaires issues de 8 pays de l'Union.
L'agriculture, toujours pilier du développement en Côte d'Ivoire, selon la nouvelle agence pour la valorisation du secteur.
Les mines et le pétrole ne pourront à eux seuls propulser la Côte d'Ivoire vers l'émergence à laquelle elle aspire. L'agence pour la valorisation de l'agriculture s'efforce donc de maintenir le secteur agricole comme un levier d'un développement durable.
C'est qu'aujourd'hui, le paysan, c'est celui sur qui véritablement repose l'économie, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et nous, nous disons que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose et reposera encore pour longtemps sur l'agriculture, les ressources animales et halieutiques.
C'était Jennifer Cérès. Elle est la directrice de l'Agence de la valorisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire.
Le nombre de personnes s'inscrivant pour les allocations de chômage a augmenté aux États-Unis la semaine dernière.
Oui, Camille, le ministère du Travail a annoncé 17 000 personnes en plus qui se sont rajoutées aux 288 000 personnes initiales, mais pas assez pour faire dérailler l'amélioration générale constatée sur le marché du travail. Le taux de chômage des États-Unis est de 5,8%, une baisse de près d'un point de pourcentage depuis le début de 2014. La prochaine mise à jour des chiffres sur le chômage est prévue le 9 janvier.
Voilà pour la Minute Éco de ce vendredi. Merci Jean-Roger et bonne année. On enchaîne avec les sports en compagnie d'Issiakaba. Bonjour.
Bonjour Camille.
Alors en football, c'était la 20e journée du championnat d'Angleterre.
L'équipe Chelsea a été battue hier par Tottenham, 5-3, et elle va devoir partager le fauteuil de leader avec Manchester City, tandis que Tottenham est 5e. Au coup d'envoi, l'enjeu était clair pour Chelsea, dont la place de leader était sérieusement contestée par Manchester City, victorieux plus tôt dans la journée Manchester City grâce à un succès spectaculaire mais laborieux, 3-2, contre Sunderland, lui permettant de mettre la pression sur le leader Chelsea, commence nettement mieux 2015 qu'Arsenal, battu à Southampton et Liverpool, tenu en échec à domicile jeudi.
L'attaquant international Cheikh Diabaté, qui doit subir une opération à un genou très prochainement, il devrait être absent pendant 4 mois et il va donc manquer la CAN 2015 avec le Mali. C'est ce qu'on a appris jeudi auprès du club girondin.
Dans un communiqué, les Girondins indiquent qu'à la suite de sa consultation avec des spécialistes et son propre médecin, Cheikh Diabaté s'est résolu à subir une opération devenue indispensable au bon déroulement de la suite de sa carrière. Son indisponibilité sera de l'ordre de 4 mois. Diabaté, 26 ans, meilleur buteur de Bordeaux cette saison avec 8 réalisations, se plaint depuis plusieurs mois de problèmes récurrents aux genoux. Il a été retenu dans la sélection du Mali pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va du 17 janvier au 8 février. Ces douleurs seront traitées avec des anti-inflammatoires, de la rééducation et du repos, ont ajouté les cavaliers sur leur site internet. La grande star de la NBA devrait manquer encore 7 matchs avant de faire son retour à Los Angeles le 15 ou le 16 janvier, alors que les Cavs doivent affronter les Lakers puis les Clippers. Je vous laisse maintenant Camille donner les résultats des matchs d'hier soir.
Et puis en NBA, LeBron James, absent depuis 2 matchs, va manquer jusqu'à 2 semaines de compétition et ce en raison de tensions dans le genou gauche et dans le bas du dos. C'est ce qu'a annoncé hier son équipe de basketball, les Cavaliers de Cleveland. Et finalement, les derniers résultats du championnat nord-américain de basketball, la NBA, eh bien, il n'y avait en fait que 2 matchs hier soir en NBA pour le 1er janvier. Les Chicago Bulls affrontaient les Nuggets de Denver qu'ils ont battus 106-101. Et puis les Sacramento Kings et les Minnesota Timberwolves se sont disputés beaucoup plus âprement leur match, qui s'est terminé par la victoire de Minnesota sur le score de 110-107. Voilà pour le journal. Je vous rappelle que vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Au micro, Camille Gros-Didier et Georges Léonard Sagno. Dans un instant, nos magazines. Mais à ceux qui nous quittent, une très très bonne journée en cette nouvelle année 2015.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Gros-Didier avec vous sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Nous enchaînons avec nos magazines. Au Congo-Brazzaville, la direction du Parti congolais du travail, le PCT, le parti au pouvoir, a dévoilé le 31 décembre son intention de changer la constitution en vue de réformer les institutions. Dans le même temps, le président Denis Sassou Nguesso, dans son message à la nation, a appelé les responsables politiques à dépassionner le débat sur la constitution. Les membres de l'opposition et de la société civile ont immédiatement réagi. Des détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Nguesso.
Après un long moment de suspense, le PCT, le parti du président Denis Sassou Nguesso, s'est enfin prononcé sur le changement de la constitution. C'était au cours d'une importante réunion tenue à Brazzaville.
Le comité central du Parti congolais du travail appelle au changement de la constitution du 20 janvier 2002. Invite le bureau politique du parti à poursuivre les discussions et contacts avec l'ensemble des forces politiques ainsi qu'avec la société civile afin de favoriser le consensus sur la réforme des institutions.
Paul-Marie Pouillet, coordonnateur de la plateforme Sauvons le Congo qui s'oppose farouchement au changement de la constitution, dénonce la position du PCT et appelle le peuple à se mobiliser.
Mais la réforme des institutions peut se faire en s'appuyant sur l'article 86 de la constitution. Ça n'empêche pas au président de la République de recadrer, si vous voulez, l'architecture institutionnelle. Voilà, donc il ne s'agit pas de nous agiter l'épouvantail de l'ordre ou de troubles à l'ordre public ou de troubles à la paix. Non, nous avons notre liberté et nous voulons vraiment la conquérir. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous allons reconquérir et c'est pourquoi nous appelons notre peuple à la grande mobilisation pour barrer la route à tous les schémas qui ne respectent pas l'ordre constitutionnel.
Dans son message de vœux du nouvel an à la nation, le président Denis Sassou Nguesso a abordé dans le même sens que le PCT, mettant en garde contre tout ce qui tenterait d'empêcher la confrontation des idées sur cette question de constitution.
Personne n'a le droit d'empêcher une telle confrontation des idées de prospérer. Personne n'a le droit de mener cet exercice démocratique à la dérive et au désordre.
L'opposant Clément Mirassa, dont le domicile et les partisans ont été attaqués par la police pour cette question, réagit.
Je suis désolé de constater que nous ne parlons pas du même dialogue. Le président Sassou veut d'un dialogue pour qu'on lui prépare une présidence à vie. Moi, je veux d'un dialogue pour qu'on aille à des conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. Mais le président Sassou trouvera sur lui, en dépit des armes qu'il achète, encore que je n'aime pas ce discours, il trouvera sur lui, au plan des manifestations démocratiques, nous entendons par là les assemblées générales, les meetings, probablement les marches, il trouvera devant lui des gens qui vont s'opposer à ce qu'il réalise, ses desseins.
Rock Eloge Nzobo, un des leaders de la société civile congolaise, appelle au respect de la loi et de l'ordre constitutionnel.
Nous ne demandons que à respecter cette constitution et aussi par respect pour les principes démocratiques. La question de l'alternance, elle est capitale. On ne peut pas continuer comme ça à tripatouiller les constitutions chaque fois parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. Parce que même après le président Sassou, celui qui viendra après continuera à faire la même chose.
Nguela Nguesso, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, La Voix de l'Amérique. La Côte d'Ivoire a lancé cette semaine la couverture maladie universelle, la CMU. Il s'agit d'un système obligatoire de couverture du risque maladie au profit des populations résidant dans le pays. Le produit est extrêmement compétitif, si l'on en croit le docteur Christophe Kwame de la Société civile ivoirienne qui a travaillé sur le dossier.
La société civile ivoirienne inquiète de l'accès aux services de santé des populations ivoiriennes par rapport à la non-atteinte des objectifs du millénaire, a elle-même initié un plaidoyer en faveur de la couverture santé universelle. Et donc la société civile ivoirienne se réjouit que le gouvernement ivoirien lance cette couverture de santé universelle. Donc nous nous réjouissons. Et nous souhaitons que le gouvernement aille loin pour que l'accès à la santé soit une réalité en lieu et place d'un slogan que cela a toujours été à la date d'aujourd'hui.
Quels seront les bénéfices réels pour la population?
Ce que nous avons constaté qui est contradictoire, je dirais, à la couverture santé universelle à travers le monde, c'est que le projet ivoirien, lui, de maintenant jusqu'en 2016, va enrôler, les classes moyennes. Et les indigents qui ne peuvent pas cotiser vont être enrôlés à partir de 2016. À part ce seul couac, pour nous, en général, nous avons étudié toutes les parcelles, l'accès, la cotisation, les modules de paiement, et tout cela, pour nous, c'est positif globalement. Mais étant donné que la Côte d'Ivoire, qui avait jusqu'en 2010 atteint 50% de pauvres, et que la crise post-électorale a dû sûrement augmenter, pour nous, il était question que le lancement se fasse avec les indigents. Malheureusement, ce programme, jusqu'à dernièrement, pour ce que nous a été de constater, ne faisait rentrer que les classes moyennes et les indigents étaient proposés pour 2016. Donc voilà un peu le seul quad de cette couverture santé universelle version Côte d'Ivoire.
Alors vous confirmez en tant que membre de la société civile que la population seront soignés pour vraiment peu.
Oui, effectivement, la couverture santé universelle, comme son nom l'indique, hein, c'est de faire accéder au plus grand nombre de la population des soins de santé qui, autrement, ne pourraient pas avoir accès.
C'était le docteur Christophe Kwame. Il était joint à Abidjan par Jean-Roger Bion. h 22, temps universel, Camille Grodidier pour Le Monde Aujourd'hui. Au Kenya, on s'attend à un doublement de la population d'ici à 2015. Le gouvernement et les ONG investissent donc dans le planning familial. Mais selon le correspondant de la Voix de l'Amérique, Gabe Joslow, la remise de contraceptifs aux femmes et les campagnes de sensibilisation ne sont pas seulement une question de démographie, il s'agit aussi de protéger les intérêts économiques du pays. On écoute Lionel Gaïma qui reprend donc le reportage de Gabe Joslow.
Le Kenya compte plus de 40 millions d'habitants et sa population ne cesse d'augmenter. Il y a une moyenne de 5 enfants par famille, bien que ce chiffre soit inférieur à celui d'il y a 2 décennies. Cette explosion démographique met à rude preuve les ressources et les services disponibles dans le pays où elle dévance la croissance de l'économie. Anne Okwisa a 4 enfants. Elle vit à Nairobi dans l'implantation de Kibera, un des secteurs les plus pauvres du Kenya. Elle discute ici au dispensaire de ses options en matière de contrôle des naissances parce qu'elle reconnaît qu'elle ne peut plus se permettre d'avoir d'autres enfants. Pour résumer, Okwisa estime qu'avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, ce ne serait pas sage d'en avoir plus. Elle précise qu'elle n'a pas le genre de boulot qui lui permettrait de joindre les deux bouts. Le planning familial devrait donc, pense-t-elle, l'aider à mieux prendre soin des enfants qu'elle a déjà. Voyant les avantages économiques du planning familial, le gouvernement et les ONG aident des dispensaires locaux afin de donner un accès plus facile et moins cher à la contraception. Walter Adoli assure que son dispensaire reçoit ainsi beaucoup de soutien. Par exemple, le gouvernement nous fournit les méthodes de planning familial et nous avons les ONG qui font du bénévolat dans, par exemple, le domaine des méthodes chirurgicales telles que la ligature de trompe et la vasectomie. Le ministère kényan de la Santé estime qu'un plus grand accès aux ressources du planning familial est essentiel à la réalisation des objectifs du pays en matière de développement économique au cours des prochaines décennies. Alex Bossiré, un obstétricien gynécologue qui a travaillé au Kenya ces 8 dernières années, pense que l'accent mis sur le planning familial est une bonne chose pour les patients eux-mêmes et pour le pays de façon générale.
You do not want your population as a country to just explode because you will not be able to provide.
On ne souhaite pas une explosion démographique parce qu'on ne sera pas en mesure de fournir à cette population les emplois dont elle a besoin et le chômage sera un gros problème. Et on ne contrôle pas la croissance de la population par le planning familial. Pour ainsi dire, on affectera la fourniture des équipements et des services sociaux.
Voilà, c'était Lionel Gaïma. On enchaîne avec le Mali. Les populations maliennes, les autorités, la classe politique, de même que les habitants du nord du pays, enfin tout le monde, semble souhaiter un accord définitif pour résoudre la crise politique que traverse le pays. Ils sont tous unanimes que la paix au Mali passe désormais par les pourparlers d'Alger, signale notre correspondant Kassim Traoré. On l'écoute.
L'année 2014 a été marquée par plusieurs difficultés au Mali. La défaite de l'armée à Kidal, la surfacturation dans l'achat de l'équipement militaire et de l'avion présidentiel, sans oublier Ebola qui a tué 5 personnes au Mali. Le front social avec la grève de 48 heures de l'UNDM, l'insécurité au nord et on en oublie volontiers. Amadou Koïta, président du parti PS Yéléngroua.
L'année 2014 a été une année sombre pour le Mali, une année sombre sur le plan économique, une année sombre sur le plan politique, une année sombre sur le plan sécuritaire, une année sombre sur le plan social, sur le plan sanitaire et sur le plan de la promotion des droits humains. Mon souhait le plus absolu est que cette année qui se termine s'en va avec son cortège de malheurs et que 2015 nous ouvre la porte de la paix, de la sécurité, de la relance économique, de la prospérité, de la santé.
Devant la nation, le chef de l'État a reconnu certains faits. Mais pense que rien n'a été fait de façon volontaire. Ibeka place son espoir en 2015.
Je tiens à redire que rien n'a été fait dans un dessein délibérément attentatoire à l'international. Et j'aurais ici renouvelé le serment de toujours servir ce pays. Ma seule ambition restant celle de l'avènement rapide d'un Mali émergent. Je suis conscient des défis auxquels le pays est confronté. Ils sont loin d'être totalement maîtrisés, car la plupart sont des défis structurels à caractère multiforme. Le gouvernement et l'administration publique doivent être salués pour s'être surpassés et pour les résultats tangibles atteints, malgré les contraintes sévères que nous avons connues. Ce projet de refondation de l'État pour lequel nous constatons une continuité de l'action visionnaire engagée dès 1992 par le président Alpha Omar Conaré.
Cette vision ne pourra être obtenue sans l'accord de paix d'Alger, dont le projet de pré-accord est au centre des discussions des partis politiques de l'opposition. Amadou Abdoulaye Diallo, président du parti PDS.
Nous souhaitons vérifier si ce document respecte les lignes rouges tracées par le président de la République lui-même. Ensuite, il y a des questions sur lesquelles nous sommes extrêmement sensibles sur le plan politique, sur le plan institutionnel et aussi sur le plan économique. Nous ne souhaitons pas que le document qui va faire l'objet de signature porte en lui les germes d'une division de notre pays. Nous souhaitons que ce soit un document dans lequel l'ensemble des forces vives de la nation se reconnaissent, un document consensuel, un document qui va cimenter davantage l'unité de la nation.
La paix ne pourra pas être possible sans une remise en cause. C'est à cet exercice que s'attellent les communautés Touareg du nord du Mali.
Qu'est-ce qui s'est passé pratiquement de 1960 à maintenant au Mali? À chaque fois qu'on avance, c'est nous-mêmes que nous levons pour détruire ce qu'on a construit. Nous l'avons fait en 90. À partir de 2012, on s'est mis à détruire tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons bâti. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'officiers supérieurs arabo-berbères, c'est-à-dire arabes et touareg qui étaient dans l'armée malienne en janvier 2012. Donc je pense que nous avons une très grande responsabilité. Moi, l'appel que je lance, c'est que chacun d'entre nous, à la place où il est, il œuvre vraiment pour la stabilité de ces espaces-là.
Toujours en 2015, Ibeka veut construire de nouvelles routes, équiper les infrastructures socio-sanitaires de base.
Voilà, c'était un reportage de Kassim Traoré et c'est ainsi que s'achève cette édition du Monde Aujourd'hui. Au micro, Camille Grosdidier qui vous accompagnait avec Georges Léonard Sagnot. Une très bonne journée et restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Bonne année.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.